Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Et si le meilleur complément alimentaire que vous puissiez consommer était totalement naturel? C'est ce que je pense et nous allons en parler dans cet épisode. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast où nous parlons de course à pied, de mouvement et de tout ce qui va avec, et notamment la nutrition. Bah oui, c'est un point très important hein, qui nous perd un petit peu tous, hein, faut le dire. Nous cherchons tous comment mieux manger au quotidien, mais aussi avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Et souvent, nous regardons ce que produisent les fabricants de poudre, de perlimpinpin, en oubliant certains produits ancestraux. Car, quel est le point commun entre Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France, un coureur du trail qui en consomme 740 grammes pendant sa course, ou un athlète d'Ironman qui améliore ses performances de 8% en le consommant plutôt que prendre du sucre classique? Ce produit ne figure pourtant pas sur la liste des dopants, hein. Il est complètement naturel, c'est le miel. Et oui, car j'en suis convaincu, les produits de la ruche sont nos amis, et c'est ce que je voulais vous faire découvrir dans cet épisode. Car vous le savez, je suis pour une alimentation naturelle, j'évite les produits chimiques, et notamment bah, les gels. Bah oui, moi je suis anti-gel. Et le miel est un allié précieux. Bah oui, j'en ai déjà parlé de mes petites boissons dans lesquelles je mets du miel dans ma tisane avec un petit peu de sel et du citron, et je pars avec ça pour le marathon ou pour les trails. Mais attention, il y a miel et miel. Voilà pourquoi j'ai invité dans cet épisode des apiculteurs. Bah oui, des apiculteurs, des vrais apiculteurs qui ont des ruches et qui vont récolter le miel et qui vont d'ailleurs nous l'expliquer un petit peu comment elle fait parce que c'était ce qui m'intéressait de savoir. Alors, j'ai pas pris n'importe quels apiculteurs, j'ai pris des bretons fiers de l'être, des coureurs très 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 endurants. Leïla et Pascal totalisent 60 marathons, 40 ultras avec des courses de 24 heures, l'UTMB, Diagonale des Fous, Marathon des Sables, et vous les connaissez peut-être à travers leur société qui s'appelle Happy Run, qui propose des produits pour l'endurance. Stick de miel, gâteau de course. Nous en avions parlé d'ailleurs dans l'épisode avec Antoine Miel parce qu'ils en sont partenaires. Alors avec Leïla, nous avons parlé de ce fameux miel, ce mélange de fructose et de glucose produit par les abeilles dont les vertus sont si intéressantes. Comme je le disais, une étude a montré que les performances en endurance peuvent s'améliorer hein, jusqu'à 8% après la consommation d'un tel mélange par rapport à l'indigestion de glucose seul hein, en quantité égale. Bah oui, vous le savez, le sucre, hein, quand on en prend trop, c'est pas si bon que ça. Mais d'où vient ce miel? Comment est-il récolté? Quelles sont ses vertus? Comment on le consomme? Est-ce qu'il y a des manières de le consommer? Est-ce qu'il y aurait des manières où finalement on le consommerait mal avec des mauvaises habitudes? Comme par exemple, est-ce qu'il est si bon que ça de mettre du miel dans sa tisane bien chaude? Bah, on aura la réponse dans cet épisode. Vous comprendrez aussi dans cette discussion que regarder précisément l'origine des miels est extrêmement important parce que ça a un rôle qui est clé sur la composition du miel et aussi ses vertus, et tous les miels ne se valent pas, surtout quand vous les achetez souvent à bas prix, hein, on verra que ce ne sont pas forcément des miels, voilà tout simplement. Nous avons aussi parlé des autres produits comme la propolis, le pollen ou encore la gelée royale et leur intérêt ou pas pour nous et comment nous devons les consommer. Voilà, vous savez tout, vous avez tout le programme de cet épisode avec Leïla de Happy Run. Je voudrais juste vous faire un petit rappel et un merci. Le premier rappel, c'est que vous pouvez soutenir le podcast en laissant des commentaires sur Apple Podcast, en faisant une dédicace aussi dans vos stories Instagram comme vous le faites, en mettant une mention Bertrand Soulier ou le hashtag KM42podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast financièrement, hein, ça m'aide à soutenir ma nouvelle vie, mon changement de vie, et ça vous permet aussi d'accéder à mon journal d'entraînement, ça se passe par Patreon, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et maintenant, nous sommes partis dans ce monde merveilleux des abeilles. Et oui, et nous allons voir comment les abeilles sont nos amies, comment elles nous aident à devenir des meilleurs coureurs et comment elles nous aident à mieux finir les courses et à mieux récupérer ensuite. Allez, c'est parti. Bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Leïla.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va, merci. Ravi d'être on air. Avec toi aujourd'hui.
Eh ben, je suis très content de t'avoir avec moi dans cet épisode du podcast parce qu'on va parler d'un sujet qui me préoccupe, qui m'a beaucoup questionné. Hein, sur, on va parler d'alimentation, de nutrition et notamment la place du miel, comment les produits de la ruche. Et j'ai intitulé cet épisode Est-ce que les abeilles sont nos amis de coureurs et en tout cas dans la nutrition parce que toi, tu es une spécialiste du domaine. Hein, quel est ton métier en fait?
Alors, à la base, je suis épicière. Donc, quand je dis épicière, c'est j'ai une formation dans la vente, dans le marketing. Donc, j'ai un parcours dans le marketing. Mais aujourd'hui, je suis apicultrice. Voilà, avec Pascal.
Donc apicultrice, comment on devient apiculteur d'ailleurs? On passe d'épicière à apiculteur, c'est quoi le parcours?
Alors, il y a différents cursus pour être apiculteur. En l'occurrence, alors il y a des centres de formation professionnelle pour les adultes, il y a des BTS qui forment aussi au métier agricole et apicole. Près de chez nous, il y en a à Laval. D'ailleurs, on accueille un stagiaire qui va venir avec nous quelques temps très prochainement. Et puis, il y a aussi des amateurs qui se professionnalisent, c'est ce que l'on a fait, en s'appuyant à la fois sur des formations auprès des GDSA, donc c'est les groupements de défense sanitaire apicole, et puis en passant beaucoup de temps avec d'autres apiculteurs aussi. Voilà.
On va dire un mot quand même sur les abeilles, parce qu'on parle beaucoup quand même de leur disparition, du fait qu'elles sont menacées, alors que pourtant elles sont capitales, hein, on va en parler pour le coureur, mais capitales pour la vie, la biodiversité, notre planète. C'est compliqué d'être apiculteur actuellement?
Alors, est-ce que c'est compliqué? En fait, je ne me suis jamais posé cette question-là. C'est d'abord une passion. C'est l'émerveillement devant l'ingéniosité des abeilles, c'est du travail, hein. C'est un travail avec beaucoup de minutie parce que c'est des petits êtres fragiles, hein. On est très soumis aux saisons et effectivement à la façon dont la ruche évolue au printemps, été, automne, etc. Bien préparer l'hiver, c'est aussi un métier où il faut être costaud. Parce que quand on récolte, par exemple, eh bien, une housse de miel, c'est 20-30 kilos. Donc, quand on est des petits comme nous, il faut être un peu, je dis souvent, couteau suisse, hein, parce que c'est effectivement travailler au rucher, c'est communiquer pour raconter ce qu'on fait. Donc, est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est passionnant.
Et donc, ce qui nous amène dans la communication, nous amène à Apiron, hein, dont on va parler, qui est l'esprit. Alors, c'est ça que quand j'ai creusé, on va dire, c'est des produits pour booster le sportif, on va dire, avec le miel, de manière totalement naturelle. Hein, quand on vu comme ça, présenté comme ça, on la présente comme ça, la société.
Alors, oui, la petite histoire, en fait, c'est que on avait déjà des ruches et un jour, lors d'une sortie longue, pendant une prépa marathon avec Pascal, on discutait. Et là, effectivement, on s'est dit, mais le miel, c'est vraiment génial. Nous, on adore l'utiliser. On est complètement fan sur nos entraînements. On sait que ça fonctionne bien. Pourquoi pas le partager avec d'autres sportifs? Et là, toc, Apiron est sorti. Et puis... En général, on n'est pas en manque d'idées, donc ça a bouillonné et on a lancé petit à petit la marque. Voilà.
Vous proposez quoi en fait comme produit? Et puis on reviendra un peu après, on fera un côté didactique sur ce qu'une ruche est capable de produire. Mais vous, quels sont les produits que vous proposez?
Alors, on a toute une gamme en fait. Notre ligne, hein, c'est de dire que dans la ruche, les abeilles produisent tout un tas de produits qui sont vraiment très utiles aux sportifs, hein, que ce soit la propolis, le miel en particulier. Notre produit phare, c'est le stick de miel. Alors, je le montre, pardon pour les gens en podcast, mais pour les gens sur YouTube, ils pourront le voir. Donc, ça se présente comme une dose de 20 grammes. Alors, tu me posais la question, qu'est-ce qu'on produit? Nous, je dis souvent, nous, on ne produit rien. Nous, on ne fait que finalement recueillir ce que les abeilles veulent bien produire pour nous. Donc, le miel de nos ruches, eh ben, on le conditionne en petite dose de 20 grammes à prendre pendant l'effort comme booster. Voilà. Donc ça c'est un premier produit. On a un autre produit qui est la propolis. Les gens qui sont très orientés sur la naturopathie connaissent bien la propolis. C'est une substance résineuse, pour faire très court, qui est collectée par les abeilles. Elles les ramènent comme des petites pelotes de résine accrochées à leurs pattes et elles les transforment dans leurs jabots. On utilise cette propolis pour ses propriétés booster du système immunitaire. On en fait un macérat qui se présente sous forme de spray C'est des choses qui se trouvent très souvent aussi en pharmacie, des remèdes contre le rhume. On a d'ailleurs des pharmacies qui nous en commandent parce qu'elles sont intéressées par la concentration de propolis qu'on y met. Quel est le lien avec les coureurs? Eh bien, quand on fait une prépa pour une course, une échéance qui est un petit peu costaud ou longue, on sait qu'on a un protocole d'entraînement sur 12 à 8 semaines. Les deux dernières semaines, on a bien donné, le corps il est un peu fatigué. Et de prendre de la propolis en cure 10 jours avant les séances, ça permet de rester en forme hein, et de ne pas avoir de petits bobos à arriver et d'éviter la case médecin. Voilà. Donc ça, c'est un de nos produits.
Ouais.
On a un autre produit qui est un gâteau sportif. Alors non, ça n'est pas une poudre parce qu'on ne met pas notre miel en poudre. Mais c'est un gâteau sportif qui est prêt à consommer en fait dans un bocal en verre pour l'aspect recyclage et qui est confectionné de manière artisanale avec de la farine bretonne. Voilà. Donc on a aussi cet ancrage local.
Oui, qu'il faut dire, hein, qui est important, hein, l'ancrage breton, parce que là, bon, ceux qui écoutent ne voient pas, mais il y a un petit drapeau, il y a les.
Il y a une hermine à peu près partout.
À peu près partout, c'est ça.
J'en mets partout. On est un peu comme les Basques ou comme les Corses, on est fiers en fait de notre identité et on la revendique. Voilà, et surtout pour le miel en fait, c'est pour nous aussi un gage de qualité de dire, mais voilà, c'est du miel breton qui est local et il n'y a pas d'import.
C'est ce que j'allais dire, parce que c'est un élément qui est quand même important, on reviendra après sur les autres produits. Parce que le miel, alors moi j'ai travaillé un peu dans le domaine du miel avec un ou deux clients, enfin notamment avec un client et on en discutant avec lui. Il m'a sensibilisé sur le fait que quand même, il y a du miel qui n'est pas du miel. Faut le dire, quand on va dans les supermarchés, il y a quand même de tout et des choses qui sont franchement... on peut dire quoi? C'est du sucre?
Oui. Alors, je fais toujours très attention quand on aborde ces sujets-là parce que c'est sensible et quand d'autres apiculteurs... l'entendent, voilà, ça peut être un sujet délicat. Ce que l'on peut dire, c'est que le miel, il est uniquement fabriqué par les abeilles. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tous les miels cristallisent au fil du temps. Un miel qui reste liquide, ça veut dire que soit c'est du miel d'acacia, parce que c'est le seul miel qui ne cristallise pas, soit c'est un miel qui a été chauffé, ou c'est uniquement du sucre, hein, voilà. Et donc ça fait cher payer le kilo de sucre quand on l'achète au prix du miel. Hein. Les Chinois en particulier ont développé des techniques pour imiter le miel à partir de sucre à moindre prix. Donc il y a des petits tests hein, qui existent pour savoir si c'est vraiment du miel ou pas, avec est-ce que c'est inflammable. Il y a des petits tests que les pros utilisent et regardent sur la viscosité aussi et sur le taux en eau. En général, les faux miels contiennent plus d'eau. Le vrai miel, on est à 18% d'humidité maximum. Voilà.
Et oui, et ça change quand même tout le produit, parce que, on peut parler du goût, mais on peut parler aussi des bienfaits. Hein. Finalement, quand on prend du sucre, on n'a pas les bienfaits du produit de la ruche.
Alors, le sucre, c'est un produit raffiné. Le miel, il est effectivement naturel, et il est riche en sucre directement assimilable. Ça veut dire quoi? C'est que on n'a pas besoin de le digérer. Et ça, pour les sportifs, c'est du pain béni. Parce que quand on est dans l'effort, finalement, le sang, il afflue dans les muscles et le système digestif d'être en pause, en fait, ça lui va très, très bien parce que le corps, il n'a pas envie de mettre de l'énergie dans le système digestif. Il y a des enzymes qui sont injectées par les abeilles, les amylases en particulier, qui fait que le miel est cet aliment qui est prédigéré et qui s'assimile directement pour apporter de l'énergie dans le corps.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant les petits sticks, justement, parce qu'on peut dire que c'est mieux, enfin c'est mieux, en tout cas moi j'ai le sentiment que quand même c'est mieux que prendre ça qu'un gel chimique ou des choses comme ça. Là on a un produit qui est quand même naturel et directement utilisable par le corps pour donner un coup de boost, alors, notamment quand on sent un peu en manque d'énergie.
Alors, oui, après, il y a des gens à qui les gels conviennent très, très bien. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est Pascal qui était là tout à l'heure quand il a fait la diagonale ou encore le 177 du raid du golf, avait sur lui des sticks de miel par dizaine. Hein, et il en a pris sur la diagonale, je crois que c'est 37, et sur le raid du golf, c'était 22. Voilà. Imaginez-vous prendre 22 gels chimiques. Juste en fait, je pense que le système digestif ne peut pas le tolérer. On n'a pas de saturation en fait avec le miel. Et sur des grandes courses comme ça, le miel, il met le corps et l'estomac en position de prédigestion. Voilà. Ce qui fait que sur la diagonale, ben, le rouet et saucisse, il est passé nickel, après un petit stick de miel. Voilà. Donc, c'est une glycémie qui est douce, similaire à celle de la banane. Donc, on n'a pas de pic de glycémie et de redescente. Le miel, c'est un mix entre glucose et fructose. Fructose, c'est un sucre lent. Donc, on n'a pas de redescente et de fringale terrible. Et c'est intéressant pour stabiliser la glycémie. Alors, j'ai parlé des courses longues, mais ça fonctionne aussi sur des distances plus courtes. On a des grands champions qui courent le 10, hein, 29 ou 30 minutes, qui utilisent nos sticks de miel. Et leur tactique à eux, c'est je m'échauffe, je prends un stick de miel et hop, c'est parti. Voilà. Donc, ça fonctionne aussi sur des plus courtes distances.
Oui, ça correspond vraiment à ce que me disait. Moi, j'avais une nutritionniste sportive hein, qui me disait avant un 10 km, faut prendre quelque chose, du sucre, parce qu'on en a besoin tout de suite pour aller avoir de l'énergie très rapidement dedans.
Oui.
Donc, le miel, en fait, correspond vraiment à ça, en fait. Hein. On peut vraiment l'utiliser dans cet usage-là. Hein.
C'est ça. C'est ça. Le miel, pour les courses longues, pour en revenir sur les longues distances, il a aussi pour avantage d'être sans résidus. Ça date un petit peu, mais pour autant, c'est une étude très sérieuse. Bernardino, en son temps, avait mené une étude avec le CHU de Nantes sur une nutrition uniquement au miel. Hein. Et ça avait fonctionné, et effectivement, il en était très très satisfait. On a aussi un grand marcheur qui fait des marches de 500 km au niveau national, qui lui utilise le miel parce que c'est justement sans résidus et il n'a pas besoin de s'arrêter pour des besoins techniques.
Oui,
Voilà.
et qu'un élément important, hein, parce qu'on le dit, hein, c'est quand même la digestion fait partie quand même des grandes causes d'abandon dans les courses, ou en tout cas
C'est vrai.
de pourrir une course, si on peut le dire. Hein, on l'a tous vécu, que ce soit à l'entraînement ou dans les courses, d'avoir le mal au ventre ou des choses comme ça. Et puis je pense à certains auditeurs hein, qui m'ont fait remarquer aussi que des fois ils avaient des problèmes de digestion. Donc c'est vrai que on cherche les produits un peu comme ça, un peu miracle, un peu tous chacun, et de se dire que finalement la nature nous en propose un comme ça.
Oui.
Très simple, finalement, alors j'allais dire très simple à trouver. Là, on va en parler parce que quand on est quand même devant un rayon miel et quand on s'intéresse à la question, il y a plein de questions qui se posent. Par exemple, c'est est-ce que la plante, la fleur, change quelque chose à la caractéristique du miel, notamment pour l'alimentation, pour les bienfaits, pour le coureur? Est-ce que il vaut mieux de l'acacia ou est-ce que il vaudrait mieux du châtaignier ou est-ce qu'on s'en moque?
Alors, avant de parler peut-être des essences de miel, moi j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est le miel en direct de l'apiculteur. Il y a certains apiculteurs sont des sélectionneurs. C'est pas le même métier en fait. Voilà. Le gage de qualité, c'est l'apiculteur qui a effectivement bichonné ses abeilles, est allé chercher ses hausses de miel et extrait son miel. On a un petit déficit de culture, je dirais, là-dessus. Pour faire une analogie que j'aime bien, je vais parler du vin. Concernant le vin, on sait très bien que selon les cépages, selon les régions, on a des goûts différents et que selon effectivement les années, il y a des saveurs qui sont différentes. Eh bien, pour le miel, c'est la même chose. À partir du moment où vous mangez un miel et que d'une année sur l'autre, c'est toujours le même goût, c'est un problème. Voilà. Parce que la nature, elle fait bien les choses. C'est-à-dire que le nectar des fleurs, il est plus ou moins concentré selon l'humidité, la pluie qu'il y a pu y avoir, selon l'abondance des fleurs qu'on a pu trouver. Et voilà, ça, c'est vraiment un gage de qualité aussi de se dire, c'est pas un goût qui est industriellement standardisé. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, sur les différents types de miel, tu parlais de l'acacia ou du châtaignier, c'est deux miels qui sont très intéressants pour le sport par leur taux de fructose, en fait. Et effectivement, le miel d'acacia, il a un indice glycémique à 53, donc c'est le plus bas. Et le châtaignier, on est très proche avec 53,4. Ce qu'il faut savoir, c'est que le miel d'acacia, en fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'import. C'est un miel qui plaît beaucoup parce qu'il est liquide et donc c'est facile. Pour autant, ça n'est que 7% de la production en France.
Et oui,
Voilà.
donc il y a un truc, il y a un problème là.
Ben, quand on regarde un rayon de supermarché, oui, on peut faire le parallèle entre la production de miel d'acacia et ce qu'on retrouve en rayon et oui, se questionner. Il vaut mieux un bon miel toute fleur de l'apiculteur plutôt qu'un miel dont on ne connaît pas très bien la provenance. Voilà.
Oui, puis alors moi j'ai vraiment envie de dire aux gens hein, d'aller regarder les pots de miel qu'ils ont dans les placards, notamment quand on les achète en supermarché, parce que c'est marqué import. Alors il y a du Chine, il y a de l'Europe, on ne sait pas trop. C'est marqué Europe hein, globalement, hein,
Alors,
généralement.
c'est marqué UE et parfois hors UE, c'est-à-dire que c'est
Voilà.
jamais marqué Chine. Et il y a une petite. Alors, ça, c'est vraiment important. Enfin, vraiment, j'insiste. Hein. C'est-à-dire que le miel, quand il est pur, hein, on doit dire d'où il vient. Voilà. Donc, le nôtre, il vient de Bretagne. OK. Si moi, je mélange mon miel hein, avec un autre ingrédient, une poudre, je ne sais pas laquelle, parce que pour les sportifs, c'est formidable. Hein. Eh bien, je ne suis plus tenue de dire d'où vient mon miel. Ça devient un mélange au miel. Voilà.
Et oui, et donc voilà, après tout est permis derrière finalement sur la qualité du miel possible qui est dedans, quoi.
Voilà, la législation est en train de bouger, mais c'est très long. C'est très long.
Et c'est vrai, hein, je le dis, hein, parce que je me suis fait avoir un jour. Je vais raconter l'anecdote parce qu'un jour, je vais dans mon supermarché, j'avais plus de miel, je faisais mes courses. Et le supermarché mettait en avant un truc, des beaux pots de miel avec un drapeau bleu, blanc, rouge dessus. C'est marqué miel du Poitou, non, producteur du Poitou, je sais pas comment c'était marqué. Je sais plus comment c'est marqué en fait. Bon, il y a quelques grands revendeurs, on va dire, hein, parce qu'on va appeler revendeurs. Il y avait un beau drapeau bleu, blanc, rouge, moi j'ai pas fait gaffe. Je prends le pot, comme ça, je rentre à la maison, et déjà, il était marqué. UE, je sais pas quoi, hein, alors que c'était, j'ai l'impression que c'était du Poitou en fait, c'était UE ou je sais pas
Voilà,
quoi.
donc ça, c'est un sélectionneur.
Et c'était un sélectionneur. Et en fait,
Oui.
le marketing est tellement fait comme ça, hein, que si on n'y
Oui.
regarde pas de près, on peut vite se faire avoir quand même, hein.
Oui. Tout à fait.
Voilà. Et c'est dommage parce que à côté de ça, moi, j'achète mon miel au marché. Au marché, alors c'est vrai, et c'est là où on voit hein, où ça vaut le coup quand même, c'est qu'ils ont un goût qui est totalement différent. Et puis, on parlait de texture tout à l'heure. Hein. C'est vrai que
Oui.
les textures des miels sont totalement différentes. Et puis, mon apiculteur, il me dit un truc. Il me dit, ah, tu verras, celui-là, il a pas le même goût que celui-ci. Celui-ci, il est comme ça. Là, j'ai pris à tel endroit. Celui-ci, j'ai pris à tel endroit.
C'est ça.
Donc, ils sont vraiment extrêmement différent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est là où aussi on découvre finalement un miel n'est jamais vraiment identique à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça fait partie aussi du charme un peu de la découverte.
Oui, c'est le terroir en fait. Tout comme on peut avoir le plaisir à goûter dans chaque région en France différents fromages, différents vins, et ben le miel reflète le terroir dans lequel il a été fait. Pour en revenir au drapeau français dont tu parlais sur les pots de miel, il faut aussi être très vigilant sur le fabriqué en France. Hein. C'est un petit peu comme pour les vêtements, c'est-à-dire que sur un vêtement, à partir du moment où l'étiquette simplement a été cousu, on peut presque se permettre de dire que ça a été fabriqué en France. Eh bien, pour le miel, c'est pareil. À partir du moment où il a été conditionné en France, hein, certains écrivent fabriqué en France. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les abeilles ont butiné en France. Non pas que le miel étranger soit forcément mauvais, mais il faut vraiment être très vigilant parce que je vais donner un autre exemple. L'Espagne est un pays qui exporte plus qu'il ne produit. D'accord?
Ouais.
Donc, en fait, c'est une plaque tournante où ils importent massivement, c'est réétiqueté Espagne et toc, ça repart. Voilà.
Oui, et donc c'est vrai, et en plus après il y a des transformations, parce que tout à l'heure tu parlais de chauffage du miel, hein, qu'on fait chauffer, alors qui donne un miel liquide, mais on perd les qualités à ce moment-là?
En fait, il y a un principe très simple qui est que la température naturelle de la ruche, c'est entre 35 et 37 degrés, quelle que soit la saison. C'est vraiment le rôle des abeilles d'avoir cette température qui reste extrêmement stable. C'est la température naturelle aussi pour garder un miel sans le détériorer. À partir du moment où on le chauffe, eh bien, on en fait du sirop de sucre quasiment et on perd toutes les propriétés, en particulier on détruit les enzymes qui facilitent la digestion et qui ont été patiemment fabriquées par les abeilles. Donc c'est dommage.
Alors, ben on va tirer un peu le fil hein, de l'histoire. Ça veut dire que si je mets du miel dans mon infusion de romarin, là, comme j'ai fait ce
Oui,
matin, c'est une
ouais.
bêtise.
Alors, c'est quelque chose qu'on explique souvent aux gens qui viennent nous expliquer, nous acheter du miel. On leur explique que c'est super de mettre du miel dans une infusion. Il faut simplement attendre d'être capable de boire l'infusion avant d'y mettre son miel. Comme ça, on est sûr que c'est à température corporelle, donc 35-37 degrés, et hop, on ne détériore pas le miel.
Ouais, c'est un truc, ça faisait partie des trucs que j'avais appris. Alors maintenant, moi, je suis très gourmand, je prends ma cuillère de miel avant et après, je bois mon infusion.
Ça marche aussi.
Ouais, ça marche aussi. Pour la voix, pour le podcast, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Parce que moi, j'ai carburé beaucoup au miel, parce que je faisais beaucoup de cours et j'avais beaucoup ma petite infusion magique était miel, citron et infusion de thym. Hein,
Ah, on va en parler, oui.
Oui,
OK.
alors, c'est bien ou c'est pas bien? Parce que quand même.
C'est super. C'est super. Alors, on est vraiment des adeptes du naturel. Donc chez nous, vous ne trouverez pas de miel en poudre, de poudre magique pour une boisson, etc. J'ai montré tout à l'heure notre gâteau sportif qui est fait avec du vrai miel. Pour la boisson d'effort, tant sur le ravitaillement, c'est ce que nous on propose quand on est partenaire sur les courses ou alors en après-course, le mélange eau, donc que ce soit une infusion avec du romarin ou du thé vert, du citron et du miel, c'est une boisson qui est isotonique en fait. Donc elle est vraiment très proche du plasma, c'est super facile à faire chez soi et c'est très économique en fait. S'il fait vraiment très chaud, on rajoute un petit peu plus de sel. Voilà, donc les doses c'est 500 ml d'eau, un demi-citron, 40 g de miel et une pincée de sel.
Et c'est ce que j'avais, et en fait c'est une petite recette que j'ai donnée il y a longtemps, longtemps sur le podcast, enfin je dis longtemps, c'est avec ça j'ai fait le marathon de Paris.
Oui.
C'était dans j'avais une flasque de ça, et je prenais de l'eau au ravitaillement, et un ravitaillement sur deux, je prenais un peu de cette boisson-là, et sur tous mes trails, je pars avec ça, mon trail du week-end dernier, mes 28 km, j'ai carburé avec ça, j'avais une flasque d'eau d'un côté, une flasque de ce petit mélange-là de l'autre, qui en plus, c'est bien, parce que c'est vrai que ça donne pas un goût, c'est pas trop sucré quand on est dans ces quantités-là, hein. On n'a pas ce dégoût d'avoir des produits des fois très sucrés, des barres, des choses comme ça. Et c'est vraiment un point qui est intéressant là-dessus.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est très juste. Et ça permet d'avoir un apport calorique faible, hein, mais pour autant intéressant. Et quand on est parfois un peu dans le dur et qu'on n'arrive plus trop à manger, et ben en buvant, on a quand même quelque chose qui passe.
Et oui, parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'il y en a qui n'arrivent pas à manger en courant, hein, qui sont pas bien, etc. Donc on cherche tous les petites astuces, les petits trucs comme ça, etc. C'est comme ça qu'on s'intéresse à ces boissons, à toutes ces solutions-là. On a quand même parlé de miel et de propolis, mais la ruche est produit d'autres choses. Et parce que moi, j'en consomme d'autres, des choses. Notamment, alors ce matin, dans mon porridge, et je fais dans mon cas pudding du goûter, je mets du pollen.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire du pollen? Alors, qui est un produit qui est compliqué à vendre, quand même, faut le dire, hein. Ou en tout cas, il y a parce que j'en ai parlé avec mon apiculteur aussi. Des fois, on trouve du pollen ça sert à rien, en fait. Comment on le consomme, le pollen?
Alors, le pollen, déjà dans la ruche, c'est la nourriture des larves. D'accord? Donc, on n'en trouve pas toute l'année. En ce moment, elles en rentrent très, très peu du pollen. Il y a un petit peu de miellet sur le lierre, mais c'est très, très peu. En hiver, il n'y en a pas. Donc, c'est une denrée qui est très précieuse pour la ruche pour assurer finalement la nourriture dans la nurserie. Le pollen, ça se consomme frais. Et c'est très riche en protéines. Donc, c'est pour ça que c'est effectivement intéressant. Le pollen qu'on trouve très souvent dans les magasins, il est déshydraté en fait. Voilà, donc il a perdu un petit peu de ses propriétés. Nous, on le récolte de manière très épisodique, mais on ne le commercialise pas. Déjà parce que pour le commercialiser, il faut que ce soit frais. Et comme on vend beaucoup sur Internet, ce n'est pas forcément le meilleur circuit. Et puis aussi parce que techniquement, pour récolter le pollen, en fait, à l'entrée de la ruche, on met des petits peignes qui brossent les pattes des abeilles. Donc les pauvres, elles se sont donné beaucoup de mal à buter, enfin à les butiner, etc. Elles rentrent, elles veulent aller nourrir leur bébé, et là on leur dit bah. Donc ça veut dire qu'on peut laisser ça 24 à 48 heures, mais pas plus longtemps. Voilà, sinon c'est pas bon du tout pour la ruche. C'est pas notre spécialité le pollen.
Moi, c'est vrai qu'on en. Ma femme fait des études de naturopathie, et c'est vrai qu'en naturopathie, on dit que c'est régénérant aussi, hein, dans les périodes aussi, on a besoin de booster l'immunité, c'est très intéressant. Et moi, je prends congelé, en magasin bio, on trouve du congelé.
Oui, c'est bien aussi.
Voilà, qui est la forme, hein, finalement, qui est. Mais surtout, ne pas le prendre le déshydraté ou quoi que ce soit, qui finalement ne sert à rien, qui est en plus vendu cher, hein, pour ce que c'est, et, alors qu'on le trouve assez facilement, j'ai envie de dire, en congelé, mais c'est vrai que même à toute saison, puisque finalement, une fois qu'il est congelé, ils arrivent à le vendre le reste de la saison. Il me reste un produit dans ma petite liste, mais peut-être que j'en aurai oublié après. On parle aussi souvent de gelée royale. C'est quoi la gelée royale?
Alors, la gelée royale, c'est la nourriture des larves quand elles sont toutes, toutes, toutes petites. Hein, et c'est la nourriture de choix de la reine aussi. La gelée royale, c'est le produit auquel les gens pensent dans la ruche en se disant c'est le produit miracle et voilà, ça va me booster. Oui, c'est un produit qui est très puissant. On en produit très peu en France, ou en tout cas, on la récolte très peu en France. Il faut s'imaginer. Alors, j'ai des petites alvéoles, pardon pour le podcast, mais sur la vidéo, ils verront ça. Dans les petites alvéoles qui sont comme ça, eh ben, il faut aller aspirer avec des mini-aspirateurs la gelée royale qui se trouve au fond. Donc, autant dire que c'est un boulot extra fastidieux. Et puis, les abeilles qui sont très productrices de gelée royale ne sont pas forcément les mêmes que celles qui mielent. Donc, c'est vraiment un travail extrêmement spécifique. Et très chronophage. Les Chinois font ça très bien. Voilà, parce qu'ils sont très minutieux et parce que le coût de la main-d'œuvre est aussi bien moindre. Ils ont cette race d'abeilles. Et en France, il n'y a que 2% de la gelée royale qui est française. Donc le reste, ça vient de Chine.
Voilà. Alors moi, nous en Auvergne, on a une coopérative à Volvic. Hein. Vous qui avez couru le Vulcain, vous savez, hein, vous le savez qu'il y a une coopérative qui fait de la gelée royale en Auvergne. Mais c'est vrai que ça fait partie des produits. On en voit partout de la gelée royale. On en voit même dans les shampoings. Des fois, on voit des shampoings à la gelée royale au miel, etc. Et on se dit, mais c'est magique ce truc-là et tout. Alors qu'en fait, bon, quand on regarde un petit peu les teneurs et puis quand on comprend un petit peu la production, comment c'est fait, ça reste beaucoup de marketing souvent, hein, ces histoires-là.
Eh oui. Ici, du marketing, je confirme. Ouais. Oui, tout à fait. On prête beaucoup de vertus à la gelée royale et ça devient un argument de vente pour avoir un super produit. Oui, tout à fait. Alors, on trouve de la bonne gelée royale aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément en Auvergne, sur un site internet qui s'appelle Miel in France. Voilà.
D'accord. Et bien, comme ça, les gens qui sont intéressés, ils auront un lien intéressant. Est-ce que j'ai oublié des produits, finalement? Parce qu'on a parlé de miel, propolis, gelée royale, pollen. Il y a d'autres produits qu'on consomme où on a fait le tour?
Alors, il y a la cire. Qui est un produit très noble de la ruche. On la consomme, nous, quand on mange du miel en rayon. Donc ça, c'est la petite délicatesse juste après la récolte. On adore ça. Et puis, on utilise la cire aussi, nous, pour faire des tissus à la cire d'abeille. L'idée étant de se dire... pour les sportifs et pour les trailers en particulier, ça permet de transporter son ravito de manière éco-responsable, hein, parce que c'est le mot un petit peu à la mode en ce moment, éco-responsable. C'est réutilisable un an, c'est lavable et c'est biodégradable. Voilà, j'en ai juste un là que je vais montrer, idem pour les gens sur YouTube. Hein. Donc, on a différentes tailles, différents formats. Et ça permet, bien sûr, au quotidien d'envelopper les aliments, mais en trail, de prendre ses fruits secs préférés, de prendre un petit bout de pain d'épices, ce qu'on aime.
Voilà, c'est ce que vous appelez les Happy Wraps, hein,
C'est
pour ceux
ça.
qui le retrouveront. On mettra les liens de toute façon dans la description, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'on peut faire autant de choses finalement avec des ruches, hein.
C'est très riche et c'est infini. Enfin, nous, ça nous fascine. On adore la façon dont les abeilles travaillent et tout ce qu'elles nous donnent, finalement, c'est des cadeaux, quoi. Voilà.
Alors, on a parlé un peu de tout ça, mais finalement, il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que finalement, on a enchaîné directement on a débuté beaucoup là-dessus. Parce que j'ai souvent une question des gens qui me disent, mais oui, mais finalement, est-ce qu'on connaît des gens, qui font des grandes courses avec ça, qui sont vraiment, qui carburent bien, etc. Est-ce qu'on a des exemples, etc. Alors, il faut le dire déjà, la marque, vous avez été citée, parce que vous êtes partenaire d'un invité qu'on a eu dans le podcast il y a un mois environ, qui est
C'est
Antoine
vrai.
Miel. Alors lui qui a un nom prédestiné, ce qui est rigolo, mais qui lui, c'est vrai qu'il est partenaire il est partenaire, donc c'est-à-dire que lui il consomme vos produits sur ses courses, hein, sur ses préparations, etc.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, on en a beaucoup, hein. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça c'était très drôle. On a participé à un off, un 50 km Tour de Rennes. Fin août, et on a rencontré un coureur qui avait fait la Trans-Martinique. Et il a couru avec nos produits et il a même couru avec le pain d'épices, mais dans son bocal. Et donc, ça m'a beaucoup fait rire parce que en fait, il n'avait pas osé l'enlever. Je lui ai dit, mais c'est lourd, c'est pas le but. Et si tu tombes, ça se casse. Voilà, non, mais blague à part, oui, on a beaucoup d'ultra-trailers qui utilisent nos produits parce que c'est sain et que sur des courses longues, l'aspect digestif, il est hyper important en fait.
Ouais, et à commencer par vous, en fait, hein, parce que on l'a dit, alors sur le site, j'ai noté une stat, mais peut-être que les stats ont bougé. J'ai vu qu'à vous deux, vous avez 60 marathons, 40 ultra trail, des 24 heures, un UTMB Diagonale, Raid du Golf, et la liste s'allonge, j'imagine. Enfin, comment vous arrivez? Parce que moi, alors, c'est là où, après, mon côté un peu qui se dit, d'un côté, il y a les ruches, le travail, etc. D'autre côté, le sport, etc. Comment tout ça s'organise? Parce que c'est beaucoup de boulot, le miel, faut quand même le dire. On a parlé du côté physique. On place pas la ruche quelque part comme ça, puis on s'en va pendant 3 mois et en la
Non.
récupérant plus tard. Hein. Faut le dire quand même, le miel, il faut déplacer les ruches, il faut aller les entretenir, etc. Il y a beaucoup de choses de travail autour de la ruche quand même.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, comme je le disais avant, on a eu une vie aussi avant d'être vraiment à fond dans l'apiculture, hein, ce qui laissait avec des horaires de bureau une autre latitude pour s'entraîner. Ça ne veut pas dire qu'on s'entraîne plus, bien au contraire. On a la liberté de se ménager des temps d'entraînement quand on le souhaite. On a paradoxalement aussi plus cette contrainte d'horaire fixe. Voilà.
Oui, c'est l'avantage du travailleur entrepreneur, hein, indépendant, etc. C'est que on peut avoir des temps décalés, on peut s'aménager des temps sur des moments où on arrive à aller courir. Alors surtout en hiver, courir plein de jours, hein, on n'est pas obligé d'aller courir de nuit avant et après le boulot. On a
C'est
le droit
ça.
d'aller courir de jour. On peut s'aménager des temps, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde le nombre de courses quand même, on se dit c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que moi qui ai un marathon comme ça et qui n'ai pas encore osé aller sur l'ultra, je vois 60 marathons et 40 ultra trails, je me dis quand même ça en fait des kilomètres parcourus. Et je me suis dit mais si c'est parcouru Alors, tout à l'heure, on parlait des 37 sticks de miel courus sur une diagonale, enfin, ingurgités sur une diagonale. Je me dis, si toutes ces courses ont été faites en carburant au miel, quand même, ça donne envie, en fait. On se dit, ça doit être un ingrédient, un super ingrédient de longévité aussi, quoi.
Ça conserve.
Ouais, non, mais c'est vrai, parce qu'après, on peut se dire... enfin, moi, je fais partie de ceux qui disent, j'ai envie d'être un coureur qui va vieillir longtemps, qui va courir longtemps. Hein, qui va bien vieillir en courant, etc. Donc c'est pour ça qu'on cherche tous les trucs en disant on va éviter les produits chimiques, on va aller vers le naturel, etc. Donc je pense que si ça fait partie des choses où on cherche des exemples de gens en disant mais oh, comment vous faites pour faire ça, etc. C'est ce qui nous intéresse nous sur le podcast, c'est comment finalement on s'alimente là-dedans quoi.
Ouais, mais sur l'ultra c'est vraiment magique honnêtement. Ça fonctionne très très bien. Alors, j'étais sur le Sancy il y a 2 semaines. C'est pas un ultra, c'était 51 kilomètres. Pour autant, le miel, ça fonctionne très très bien. Moi, au bout d'un moment, j'ai du mal à mâcher en fait. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui s'ingère de manière très facile et ça fonctionne bien. Et pour revenir sur l'aspect, le miel, ça conserve. Oui, le miel, ça conserve plutôt bien parce qu'elle a 63 ans et il court son marathon en 3h08. Donc, ouais, ça va.
Ah oui, alors là, ça me fait rêver. Le temps me fait rêver. Effectivement, ça va, oui. Effectivement, Et puis, alors félicitations aussi par ailleurs pour le trail du Sancy, qui est un trail estival, mais que vous avez couru sous la neige, hein. Parce que alors cette année, franchement, le temps, les gens le savent pas, mais l'Auvergne, c'est des montagnes et des montagnes où il peut neiger en plein été, hein, et en fin d'été. Et là, vous avez vraiment eu des conditions qui étaient sympathiques.
C'était génial. Ah, j'ai adoré, moi j'adore ce genre de truc, il y avait de la boue partout, les gens glissaient sur les fesses pour descendre certaines pentes. Quand on montait sur les crêtes, effectivement il y avait beaucoup beaucoup de vent et de la neige, le grésil nous fouettait le visage et en fait on marchait dans les pas de celui de devant parce qu'on ne pouvait pas lever la tête. Mais c'est un truc mémorable, donc ouais c'était chouette. Et puis beaucoup de solidarité entre les coureurs, donc ça c'est des beaux moments de trail hein, qu'on ne retrouve pas de la même manière sur route, même si j'aime les courses sur route, hein, mais c'est très différent.
Oui, et c'est vrai, en plus, moi je connais des gens qui ne sont pas montés, des Auvergnats qui sont dit « Oh non, il fait trop mauvais, on n'y va pas », etc. Ils avaient raccourci un peu la distance, hein, ils avaient enlevé un passage quand même, le passage oui. Le plus dangereux, notamment le Sancy, hein, qui était vraiment trop dangereux hein, dans ces conditions-là. Moi, de toute façon, j'ai fait une course en mois de juillet, hein, dans le brouillard là-haut, donc avec la neige presque, etc. Donc c'est guère étonnant qu'au mois de septembre, ça puisse déjà un petit peu dégénérer. Mais il y a des années, c'est sous un grand soleil, des années, bon, c'est vrai que c'est dans ces conditions-là. Ça me fait penser d'ailleurs, en parlant de course, c'est qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est que vous êtes aussi dans le milieu de l'organisation des courses. Alors on a parlé que vous étiez partenaire oui. de certaines courses, mais aussi il y a une course que vous organisez qui arrive bientôt.
Alors oui, On fourmille d'idées et là, on était très frustrés de se dire, ben voilà, on ne peut pas être partenaire de course parce que de facto, avec le contexte sanitaire, les courses sont annulées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on s'est dit, ben voilà, on connaît bien la forêt de Rennes. Notre miellerie, elle jouxte la forêt de Rennes. Donc, organisons un défi sportif. Avec deux distances, 18 et 34 kilomètres, mais ça, c'est pas des distances trop courtes. On s'est associé avec deux autres jeunes entreprises qui, comme nous, sont tributaires du Covid. L'une pour les inscriptions à la course et l'autre pour la chronométrie, pour faire un événement convivial. Alors, bien sûr, respect des normes Covid, avec des sas de départ tous les quarts d'heure par sas de 10 personnes, le port du masque au départ, à l'arrivée, voilà. Donc, il reste encore un petit peu de place, mais ça part très vite. Et c'est les 24 et 25 octobre, au départ de la miellerie, pour des parcours en forêt de Rennes.
Voilà. Alors, pour finir cet épisode, je te propose qu'on fasse des petites questions rapides comme ça. On a parlé du miel pendant les courses, hein, que ce soit des courses courtes, de l'ultra, etc. Finalement, Dans la préparation, dans l'entraînement, est-ce que comment on peut l'utiliser pour maximiser, on va dire, sa préparation? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la propolis, hein, en disant que c'était un bon booster aussi, hein, finalement, pour éviter la fatigue. Est-ce qu'il y a des conseils? Comment tu conseillerais d'utiliser le miel quand on est dans la préparation de course ou même quand on se prépare tout simplement pour attaquer une nouvelle saison, des choses comme ça?
Alors, pour préparer une course, mais pas seulement avec le miel de manière générale, on sait que on doit avoir des baskets adaptées, confortables et qui vont bien sur le terrain qu'on va attaquer, trail ou route. Donc l'équipement, c'est important, mais la nutrition aussi, et de la tester à l'entraînement avant le jour de la compétition, ça c'est vraiment vraiment primordial. Donc sur une sortie longue, de se tester le stick de miel et au petit déjeuner de tester le gâteau sportif qu'on utilisera le jour de la compète, ça c'est vraiment très important. Ça permet d'être confort le jour du départ et puis de savoir si ça nous convient aussi. Voilà, ça c'est super important. Et en boisson d'effort, et ben de reprendre le mélange magique avec du romarin ou pas dans l'infusion, du miel et du citron. Ça fonctionne bien sur les sorties longues à l'entraînement.
Oui, sur des sorties longues, hein, c'est très, très, très bien dans les sorties longues, hein, de le tester. Puis, moi, je m'en fais toujours un peu plus, je mets ça dans un thermo, puis quand je rentre à la maison, je finis ce qui est chaud, en fait. Moi, je fais pas des sorties non plus, je pars 2 heures maximum, donc c'est un thermo qui tient bien le chaud encore là-dessus. D'ailleurs, ça m'amène à la côté récupération, finalement. Ça serait quoi le conseil en récupération? On peut dire que le miel, finalement, on peut le consommer aussi pour mieux récupérer, parce qu'il a les caractéristiques permettent aussi de mieux récupérer derrière.
Alors, il y a une caractéristique du miel dont je n'ai pas parlé, mais qui est vraiment importante. Sur semi, sur marathon ou sur des trails un petit peu longs, certains coureurs sont vraiment sujets aux crampes. Je ne vais pas dire que le miel, c'est magique. Pour autant, le miel favorise la rétention du magnésium. Et on sait que le magnésium, c'est très favorable contre les crampes. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Pour en revenir à la récupération, nous on est un peu comme Zatopek, hein, qui buvait de la bière pendant ses entraînements ou surtout après ses entraînements. Et donc on a une bière au miel. Je la montre à l'écran aussi. Et qui effectivement, on a nommé boisson de récupération sportive au naturel. Donc là, c'est mon étiquette marketing qui sort. C'était un peu pour le clin d'œil. Mais je pense qu'il y a beaucoup de coureurs et de trailers qui apprécient la petite bière d'après effort. C'est sympathique, c'est un moment convivial. Et c'est brassé avec notre miel en Auvergne. Voilà.
Et oui, et c'est vrai que bon, j'ai une rubrique du podcast qui s'appelle Dernier Ravito. Donc, au Dernier Ravito, ça fait une boisson parfaite. Hein, Dernier Ravito, on refait la course avec ce genre de boisson comme ça. Alors, on en a parlé. Vous le vendez pas en pot, le miel, si vous, je sais pas, où vous vendez.
Et on le vend en pot, oui.
Voilà.
Aussi.
Parce que finalement, on peut aussi se le mettre sur du pain, sur une bonne tranche de pain ou quelque chose comme ça. Finalement, parce qu'on a parlé dans plein d'utilisations de gâteaux, de sticks, de boissons, etc. Mais finalement, moi, je dis que je le mange à la petite cuillère, mais on peut aussi s'en faire des tartines.
On peut en faire des tartines au petit déj avec du beurre salé, s'il vous plaît. À l'apéro, c'est super aussi le miel, par exemple, sur une tartine avec du fromage de chèvre. En cuisine aussi, enfin le miel on peut l'utiliser de plein de manières différentes, bien sûr. Il y a certains pâtissiers maintenant qui commencent à remplacer le sucre par le miel aussi. Parce voilà. Que le pouvoir sucrant du miel est plus fort, hein, et puis apporte moins de calories voilà, que le sucre.
Et oui, on doit le dire, hein. C'est pour ça qu'on revient sur cette histoire, on en a parlé au début, hein. C'est que c'est pas du sucre, hein. C'est le fructose, hein. c'est différent du sucre, surtout du sucre raffiné tel qu'on le connaît, et donc c'est important aussi de se dire que, ben, on peut, moi j'aime bien le goût sucré, hein. Moi je suis ce qu'on dit un bec sucré, donc j'adore le goût sucré, et c'est vrai que je ne sucre jamais, je n'ai plus, on a pratiquement pas de sucre à la maison, enfin un petit peu de sucre roux, des choses comme ça. Par contre les pots de miel, alors c'est mon apiculteur, il est super content parce qu'il me voit débarquer assez régulièrement, même si cet été, moi c'est vrai que l'été j'en consomme beaucoup moins quand même, hein, faut le dire, hein, c'est quand même plus l'hiver, etc. Mais il serait très content parce qu'il me voit arriver, alors je lui dis, alors tiens, tu vas me donner un acacia, tu vas me donner... Un châtaignier, en ce moment, j'ai dû. Ce matin, c'était un tilleul. Donc, c'est un peu la grande surprise. Je lui demande toujours comment vont ces abeilles. Hein. Je lui dis, elles vont bien, elles n'ont pas froid en ce moment, etc. Et l'autre jour, et c'est pour finir un peu là-dessus, il m'a dit qu'il était émerveillé. Parce qu'il m'a dit, aïe, on avait 12 ou 13 degrés, il m'a dit 13 degrés au printemps et 13 degrés en automne. Ma ruche, elle n'est pas du tout pareille, en fait.
Oui, ça c'est possible.
Ouais, il m'a dit, autant au printemps, elles ont une activité de telle ou telle manière. Il me dit, là, quand j'y retrouve et tout, il me dit, c'est pas du tout la même activité. Elles sont un peu comme nous, elles ont un peu le froid, etc., qui arrive, etc. C'est des êtres vivants hein, qu'il faut bichonner, chouchouter hein, quand même. Hein. C'est vrai que c'est un vrai gros boulot. Lui, il me disait que c'était très physique, on en parlait tout à l'heure, qui demande beaucoup de passion, de temps, de connaissances, hein, pour arriver à comprendre un peu aussi comment elles s'inscrivent dans l'écosystème hein, dans lequel elles vivent.
C'est vrai, ouais. Et elles sont d'une ingéniosité incroyable. On parlait du froid qui arrive et d'une température de 12-13 degrés. Dans ces cas-là, elles se mettent en grappe hein, au milieu de la ruche, autour de la reine. Hein. Et en fait, à tour de rôle, elles vont sur les extérieurs. Comme ça, elles se refroidissent. Enfin, il n'y a pas une abeille qui se refroidit plus qu'une autre et elles se donnent le tour. Moi, je trouve ça génial.
Ouais, c'est un modèle de vie en collectivité, en fait, hein, qui est d'une organisation qui est vraiment assez incroyable là-dessus.
Pour ceux que ça intéresse, je me permets, Bertrand, pardon, il y a un chercheur qui s'appelle Henri Duchemin et qui a extrapolé en fait l'organisation des abeilles et de la ruche au monde de l'entreprise. C'est passionnant, vraiment.
Oui, eh ben je chercherai la référence. Tiens, je la mettrai dans les notes de l'épisode si on la trouve, parce que je pense qu'effectivement c'est vrai qu'on a, c'est un monde, on le connaît pas assez. Et puis, comme je disais, moi cet été, il y en a une qui m'a embêté. Hein. Alors j'étais un peu désolé pour elle, mais elle est venue me piquer quand je courais. Comment on fait si on se fait piquer par une abeille sur un chemin? C'est quoi notre réaction à avoir?
Alors, plusieurs cas de figure. Alors, je vais faire une petite dédicace à Prisca, qui est l'une de nos ambassadrices, qui a gagné le 87 km du raid du golf l'année dernière, et qui l'autre jour m'a fait un message en me disant « Au secours, je me suis fait attaquer par des abeilles. Elles m'ont poursuivie. » Donc, elle, son parti pris, ça a été de se jeter dans l'eau, parce qu'il y avait un petit cours d'eau à côté, parce qu'elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Alors, les abeilles, ça reste des animaux qui sentent hein, si on a peur ou pas. C'est un peu comme un chien. Voilà. Donc, elles ont une réaction qui est adaptée aussi. Et quand elles-mêmes ont peur, par exemple, elles viennent se mettre dans les cheveux et elles n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Et là, il faut qu'elles se défendent et elles piquent. Et en général, quand une abeille pique, hein, les autres sentent les phéromones hein, et sentent que ça a piqué et ça repique derrière. Donc, pour répondre à ta question, si c'est une abeille isolée, il faut simplement enlever le dard sans percer la poche de venin. Le venin, il est thermolabile. Donc, si on a une source de chaleur, c'est bien de mettre un petit peu de chaud. Sinon, simplement, ça va passer. Et s'il y en a beaucoup, ça dépend si c'est un essaim. Alors, si c'est un essaim qui cherche une maison, en général, les abeilles, elles sont pas du tout agressives. Moi, je peux les manipuler à main nue et il n'y a pas de souci. Elles cherchent juste à s'abriter. S'il y en a plusieurs et qu'elles sont vraiment agressives, l'eau, c'est pas mal. Et puis, courir vite. Ouais. S'éloigner.
C'est un bon entraînement. Non, mais en plus, cet été, alors, je sais qu'il y avait la forêt que j'ai traversée. Il y avait des panneaux, en fait. Hein, faut le dire, parce que vous mettez des panneaux, généralement, pour dire attention, ruche, pas très loin, etc. Hein, en tout cas.
Oui.
Elles étaient assez loin du chemin, mais il y en avait une qui se baladait par là-haut et nos chemins se sont croisés. Je l'ai senti à un moment donné, et puis bon, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, me suis retrouvé avec le dard qui était planté dans la joue sur le cou.
Ah.
Donc j'ai dit bon, allez, c'est pas grave, mais j'ai pas eu de réaction ou quoi que ce soit, donc c'était amusant. Et je me suis dit, est-ce que pour soigner, est-ce que je peux mettre du miel dessus, ou est-ce que par exemple, on peut mettre du miel pour soigner les plaies, les bobos, notamment quand on tombe, quand on se fait piquer, des choses comme ça, ou est-ce que, parce que ma fille a du miel, sur les fesses de ma fille, on met du miel quand elle est toute irritée. Et je me dis, est-ce que ça marche aussi pour nos plaies?
Alors, sur les plaies, le spray à la propolis, hein, c'est hyper, super efficace. J'ai souvent des éleveurs de chevaux ou de vaches qui me contactent quand leurs animaux sont blessés. Ils les soignent avec un onguent à la propolis ou bien sûr les pieds des vaches aussi. Concernant le miel, c'est très efficace. En général, il faut utiliser du miel de thym. Sur les plaies à vif. C'est ce que fait d'ailleurs le centre des grands brûlés à Périgueux, l'hôpital. Et ils soignent les grands brûlés avec du miel de thym. Ouais.
Voilà, et donc comme ça, on peut vraiment faire énormément de choses. Alors, bien sûr, on peut en mettre en cuisine aussi, sur plein de plats, etc. Mais on voit hein, que le miel, pour nous, hein, c'est vraiment un allié. Donc j'avais raison de dire que c'est nos amis, les amis du coureur, du sportif, etc.
Tout à fait.
Voilà, alors on a fait un très bon tour. Je ne saurais terminer cet épisode sans redire un mot. Hein. Donc le Happy Run, on vous trouve partout, en tout cas, votre site. C'est l'adresse, c'est happyrun.com
C'est .fr.
.fr, oui. Sur lequel on trouve les produits, les différents produits, dans tous les produits dont on a parlé. Je pense pas qu'on en ait oublié, hein, d'ailleurs, sur l'instant, comme ça. Le gâteau sportif, donc, qui est déjà tout prêt, hein, on avait dit, il n'y a plus qu'à manger, en fait. Il arrive dans un joli petit pot en verre, hein, il n'y a plus qu'à manger. On vous trouve aussi sur Instagram. Facebook, je suis en train de regarder, et puis on doit le dire aussi, on vous trouve dans les magasins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Internet, on vous trouve aussi dans des boutiques de running.
C'est ça, la liste est sur notre site Internet, et c'est en développement constant, voilà.
Voilà, moi je sais que j'ai un magasin à Clermont qui vous propose, hein. J'étais passé devant il n'y a pas longtemps, et puis si on est vraiment fan de côté breton aussi, hein, je le dis, il y a aussi des t-shirts pour courir naturel, etc. Avec les... Mais c'est important d'être chauvin. Non, mais franchement, c'est important d'être chauvin. Et les Auvergnats et les Bretons s'entendent bien justement sur ce point de la chauvinerie. On est fiers d'être Auvergnat, Breton, etc. Donc c'est important de le mettre. Même si le logo breton est plus joli que le logo Auvergnat, nous on le sort moins. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était vraiment un chouette épisode. Je pense qu'on a appris beaucoup beaucoup de choses hein, sur ces produits, sur ces abeilles, hein, sur ce qu'elles font, sur comment elles peuvent nous aider. On n'a pas dit d'ailleurs, il y a une saison particulière de récolte hein, du miel.
Oui, alors nous, on prend le parti de faire en général une seule récolte par an, mi-août. L'idée, c'est de récolter uniquement ce qui est dans la hausse parce que les abeilles produisent plus que ce qu'elles ne consomment ou que ce qu'elles n'ont besoin. Et le reste de ce qu'elles engrangent à partir de mi-août, eh bien, c'est leur réserve pour l'hiver.
Voilà, et ensuite, ça se conserve assez facilement.
Alors, le miel, il se conserve indéfiniment. C'est un des seuls aliments à ne pas périmer. Alors, comme pour tout aliment, on est tenu de mettre une date qui est fixée à 2 ans.
Voilà. Et à l'abri de la lumière, j'imagine, hein, peut-être, par contre. Hein.
Oui, c'est au sec et à l'abri de la lumière, tout à fait.
Et ben voilà, et ben on sait tout sur le miel. Merci beaucoup Leïla pour toutes ces informations là. N'hésitez pas à les retrouver hein, Happy Run, vous verrez tous les produits, les conseils, etc. Vous en donnez beaucoup hein, sur Instagram, vous donnez des conseils complémentaires, des choses comme ça, c'est intéressant de suivre un petit peu. Et puis on voit les sportifs hein, qui courent avec et on voit que certains allongent les distances. On a parlé tout à l'heure d'Antoine Miel, mais il y en a d'autres. Hein. Vous avez beaucoup d'autres ambassadeurs qui apprécient vos produits. Je pense hein, que tous ceux qui s'intéressent à courir, on va dire, plus naturel, et puis surtout de se dire, on parle beaucoup de consommer local, etc. C'est aussi important de montrer, hein, c'était important aussi d'en parler, de dire que le miel, c'est vraiment un produit sur lequel il faut miser sur le local et les petits producteurs, parce que c'est vrai, pour vraiment en profiter, et ben c'est vous hein, qui produisez ça, c'est pas un produit industriel, c'est comme un autre. Il n'y a pas d'usine à miel, hein, j'ai envie de dire. L'usine à miel, c'est la ruche, c'est les abeilles, et c'est elles hein, qui fournissent ça. Merci beaucoup, Leïla, pour tous ces conseils. Bonne organisation de la course, parce que finalement, c'est dans une dizaine de jours maintenant, hein, j'imagine, c'est un peu de... Il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Sur l'hiver, peut-être moins de travail quand même sur la ruche, donc il y a peut-être des...
Alors, en fait, on a beaucoup de travail d'entretien du matériel. Ouais. Donc la propolis dans les petits sprays dont on parlait, eh bien je vais la gratter sur les hausses de nos ruches et la récolter. On a de la remise en état de matériel et puis on peut en profiter pour organiser une course. Donc ça c'est plutôt chouette.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et peut-être préparer d'autres courses. Peut-être vous avez d'autres objectifs, des choses comme ça qui vous titillent un petit peu.
Oui, on a 2-3 projets qu'on dévoilera sur Instagram petit à petit. Oui.
Et ben voilà, et ben comme ça, ça fait une raison de plus de vous suivre sur Instagram, d'aller voir un petit peu suivre les aventures. En tout cas, merci beaucoup. Et on appréciera, pour ceux qui regardent la vidéo, il y a un beau sweatshirt In Miel We Trust, voilà, qui fait partie de. C'est important, hein, voilà, ça, de déclarer son amour au miel. En tout cas, moi je le dis, hein, je carbure au miel et j'achète mon petit pot très régulièrement, etc. Parce que c'est pour moi, fait partie des produits vraiment que sur lesquels je compte beaucoup, hein, tant pour l'alimentation de tout. Tous les jours que pour les courses, et c'est vraiment très intéressant d'avoir toutes ces informations là. Je te remercie beaucoup Leïla, et on se retrouve bien entendu nous tous pour un épisode la semaine prochaine sur un sujet dont je ne sais pas encore de quoi on parlera, mais en tout cas je pense que ce sera avec un autre invité qui nous dévoilera une autre facette de la course à pied. Merci beaucoup Leïla et bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
Merci Bertrand, au revoir.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.